Je m'appelle Gaël Hanan, j'ai presque 26 ans. En 97, je me suis engagé à l'armée israélienne pour le service de 3 ans. Pendant une année, j'ai fait c'était une année d'entraînement et j'ai appris le métier d'être conducteur de char. Un char très très connu comme une sorte de fierté nationale israélienne, le Merkava 3. Après le premier mois de mon service militaire, ma sœur a été tuée dans un attentat suicide à Jérusalem. Après ça, j'ai continué le service parce que en quelque sorte, le service, mais me tenait en debout, quoi. Et je savais que si j'avais l'option et officielle, même on s'en fout un peu de l'officiel à ce moment-là, mais ça existait, de quitter l'armée, de continuer de la vie civile. Mais à ce moment-là, j'étais tellement cassé que je pouvais pas, j'ai vraiment tenu à rester dans l'armée pour avoir une structure. Et j'ai fait cette année d'entraînement, au bout de laquelle je me suis trouvé au Golan, dans une brigade de chars. Et on se préparait pour enfin, après 4 mois, et monter au Liban. C'était l'époque où il y avait la bataille quotidienne au Liban. Je ne voulais pas y aller. J'essayais de trouver un job plus administratif en tant qu'instructeur ou commandant des jeunes soldats en entraînement. À cette époque-là, mes parents ont commencé peu à peu à être médiatisés et à parler. Et pas aussi fortement qu'aujourd'hui, mais déjà dans les médias. Et ce qui était marquant le plus, c'est que ma mère a accusé le premier ministre Bibi Netanyahu de l'époque de la mort de sa fille. Personnellement, elle l'appelait assassin et elle a refusé de recevoir ses condoléances et les condoléances officielles du gouvernement israélien et de la mairie de Jérusalem.
Pourquoi, quelles étaient ses raisons pour l'accuser de ce crime?
Et à peu près une semaine avant l'attentat, si je ne me trompe, Bibi Netanyahu a ouvert un tunnel au-dessous du mur de lamentation. Ce mur se trouve dans un point très sensible, juste au-dessous de la mosquée d'Al-Aqsa. Et l'ouverture de ce tunnel a provoqué beaucoup, beaucoup de violence et beaucoup de morts. Et bien sûr, beaucoup de morts palestiniens, beaucoup plus de morts palestiniens que de morts israéliens. Et ces morts palestiniens, savait la vengeance par l'attentat qui a été commis chez nous, à Jérusalem et Ouest. Donc pour nous, Benjamin Netanyahu, il n'était pas stupide, il savait exactement ce qu'il faisait et ça servait à ses fins d'avoir un attentat et d'avoir encore des morts en Israël et bien évidemment encore des morts en Palestine. Il faut expliquer ça, c'est-à-dire pour moi c'est tout à fait clair, mais je sais que c'est pas tout à fait clair pour d'autres. Ses fins politiques ou bien économique, pas seulement de ce politicien-là, mais aussi de celui qui règne maintenant, Sharon, et d'autres qui vont le suivre, et d'autres qui le précédaient. C'est une histoire très simple de puissance économique qui se résume un peu, si on veut, autour du marché des armes. Premier plan. Et Israël, c'est le premier client des États-Unis de l'industrie des armes aux États-Unis. Et tant qu'il y a la guerre, il y a cette relation de commerce. Toutes les armes et tout l'équipement de l'armée israélienne, c'est américain. Ceci ne va pas dire qu'il faut abolir les Américains. Ça veut dire seulement que les politiciens profitent de cette guerre pour avoir des rapports commerciaux avec les États-Unis, avec de grandes entreprises aux États-Unis qui commencent par l'achat des armes, l'achat et la vente des armes, et qui se terminent, qui vont jusqu'à la construction. Et en fait, tout ce qui a beaucoup de sous dedans, électronique et tout. Tout autour de ça, et sûrement la main des politiciens en Israël est souvent là-dedans, dans les intérêts économiques. Donc, c'est-à-dire, ça se passe toujours comme ça en Israël. Il y a une action provocante du côté israélien qui est suivie par un attentat, qui est suivie par des représailles, qui sont suivies par des attentats, etc. Et dès qu'il y a un peu de silence, comme on voit maintenant, avec cette déclaration un peu ridicule de Abou Mazen et de Sharon de déclarer la fin de la violence, je prévois 3 semaines de silence et puis soit la montée d'un nouveau groupe de résistance qui seront peut-être des extrémistes religieux qui vont faire un attentat malgré la trêve annoncée par le Hamas et le djihad. Si ce ne serait pas un nouveau groupe, ce serait le groupe existant qui vont casser la trêve. Et puis tout le monde demandera à l'action pourquoi ils ont cassé la trêve. On ne peut pas compter sur des Palestiniens, on ne peut pas parler avec des Palestiniens, il n'y a pas de partenaire. Ça, c'est le premier intérêt de Sharon, comme de Barak, comme de Benjamin Netanyahu, de dire qu'il n'y a pas avec qui parler et ce n'est pas la peine de parler et qu'il faut vivre là-bas entouré du mur. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Sharon lui-même a créé le Hamas. Sharon lui-même a renforcé le Hamas et c'est grâce à lui que le Hamas aujourd'hui a 30% de soutien, ce qu'il n'avait pas il avait moins de 10% avant la montée de Sharon. Et comme je disais tout à l'heure, ça sert à ses fins, à sa cause finale, qui est finalement personnel. Tout d'abord, Sharon, c'est un des hommes les plus riches au pays. Et il a un quasi-monopole sur le marché des moutons et tout ce qui a un rapport avec. Et il a des terres, beaucoup de terres. C'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à Bush dans ce contexte. Il profite de son terme de Premier ministre pour s'enrichir.
On va peut-être revenir, si tu veux bien, sur ton parcours. En 97, tu es encore dans l'armée israélienne. Qu'est-ce qui va te faire changer d'avis ?
Alors, en 98, l'armée, le commandant de ma brigade, qui connaissait bien les articles sur ma mère et les dits de ma mère, a refusé que je reçoive un poste administratif au pays. Et il a dit que je dois aller au Liban avec tout le monde. Et ma mère a eu la possibilité de s'opposer officiellement, puisqu'on est une famille endeuillée. Et une famille endeuillée peut ne pas être d'accord, peut ne pas signer. Parce que en fait, le fait que je sois dans l'armée à ce moment, en tant que frère endeuillé, est déjà en volontariat. Et aussi le fait d'aller au-delà des frontières. Donc ma mère a enlevé sa signature et elle a dit voilà. Donc j'étais transféré à un poste mécanique. J'étais un mécanicien de char pour les 2 ans qui restaient. Et je suis sorti de l'armée en juin 2000. Et j'ai vu que tout ce qui m'a été dit avant de m'être engagé à l'armée était en grosse partie faux. C'est-à-dire ce qu'on m'a dit avant, ce qu'on m'a fait très bien comprendre à l'école, au lycée, lors du bac et tout ça, et c'est que le service militaire est complètement indispensable pour un Israélien qui le veuille ou pas, parce que s'il ne le fait pas, il ne peut pas entrer à la fac, il ne peut pas avoir un permis de conduire, il ne peut pas prêter de l'argent de la banque, etc. Et c'est pas entièrement faux. C'est-à-dire Israël est dans chaque établissement, à la tête de chaque établissement, il y a un ex-général. Et donc, qui apprécie beaucoup un service militaire digne à ce nom, pour lui. Donc, si c'est le département de cinéma à l'université, ou bien si c'est à l'hôpital, ou bien si c'est dans une usine, ce serait toujours comme ça. On va demander, qu'est-ce que tu as fait à l'armée ? Pas si tu as fait à l'armée, mais qu'est-ce que tu as fait à l'armée ? Parce qu'il y a une énorme importance si la personne était ce qu'on appelle « jobnik », quelqu'un qui a un job, donc administratif ou mécanique, ou bien s'il était combattant et se prêtait à mourir pour la patrie. Quand je suis sorti de l'armée, j'ai compris que c'était entièrement vrai, et encore plus, que partout où j'allais, tout était militaire, l'approche, l'accent, les paroles, tout me semblait militaire. J'étais gravement choqué par le service militaire, qui est une des formes les plus graves d'oppression, je pense, de façon mondiale, quoi. Toute armée. Vivre 3 ans sous une telle discipline, ça décourage beaucoup. On est empêché de sentiments, on est empêché de tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et je devais quitter. J'ai quitté pour faire un voyage aux États-Unis. Et voilà, j'ai fait un voyage aux États-Unis pour essayer de me trouver, de me retrouver. Quand j'étais au lycée, je faisais de la peinture, j'écrivais beaucoup de poésie. J'avais un groupe, je faisais partie d'un groupe de rock, on faisait des concerts. Après l'armée, je ne pouvais plus toucher ni aucune de ces choses. Et j'essayais de me retrouver un peu de tout ça. J'ai fait un an aux États-Unis, je travaillais dans beaucoup de domaines, déménagement, et nettoyage, restaurant, etc. Construction. Enfin, je faisais des travaux. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai travaillé en construction, je travaillais avec des Mexicains en Californie. Et c'est un peu à ce moment-là que j'avais mon premier contact, vrai contact d'amitié avec ce qu'on appelle les autres, ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, en Israël, ça joue beaucoup. Cet aspect de ce qui nous ressemble, ce qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire ce qu'on appelle plein de noms drôles que personne ne comprend, à part nous-mêmes, comme Ashkenaz, Sepharad et tout ça, qui est finalement blanc et non blanc. C'est ça la situation, c'est ça ce qui était ma vie depuis toujours. J'étais toujours au milieu de ceux qui me ressemblent, donc blanc. Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à me gêner parce que j'ai vu qu'il n'y a en fait aucun empêchement d'avoir des contacts avec ce qu'on appelle des autres.